Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour à vous. Ah, très bien. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, merci pour ta venue. Dans quelques semaines, et nous déjà la semaine prochaine, nous voulons nous rappeler qu'il fut un jour où tu vins sur cette terre pour nous sauver. Tu es venu régler le problème du péché. Tu es allé jusqu'au bout de ta mission. Que ton esprit nous permette de nous en rendre compte, d'en être conscients à cet instant et que nous ayons cette pensée présente en nous, que tu es Jésus, le Christ, le Messie de Dieu, oint par lui pour le salut des hommes. Donne-nous des oreilles pour entendre ce que tu as à nous dire et un cœur pour le mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au pied de la croix. Condamné à mort. Voilà la première phrase qui a été dite, écrite, dans le livre de Victor Hugo qui s'appelle « Le dernier jour d'un condamné ». Un livre qui marche sur les traces des dernières 24 heures de ce condamné à mort et qui rapporte ses émotions, qui rapporte ce qui le bouleverse, ce qui le submerge. « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » Voilà ce que scande la foule excitée, avec une grande solidarité, devant un homme qui va bientôt être condamné à mort. Comme le personnage principal de Victor Hugo, la foule veut voir ce condamné crucifié, veut voir ce condamné mort. Alors il respire pour quelque temps. L'évangéliste Luc retrace pour nous les dernières heures du condamné de Jérusalem, Jésus-Christ. Le tribunal s'est prononcé, tribunal de pacotille, le véritable juge est condamné. Injurié, il a été. Cet homme qui n'a rien fait, qui soit jugé digne de mort, comme l'a dit Pilate, il a été méprisé, moqué. A-t-il souffert ? Oh que oui ! Et bien pire encore, rien n'a été laissé au hasard par Luc pour ce scénario digne d'un Oscar, film hollywoodien. C'est bien la mort qui attend Jésus-Christ à la sortie de Jérusalem, au lieu du Saint-Sulpice. Est-ce que sa crucifixion a été l'objet de ragots ? Est-ce que ça a fait la une des ragots ? Le texte biblique qu'on vient de lire me permet de répondre oui. Voyons ce qui s'est passé au pied de la croix. Trois choses, les témoins de la croix, verset 33, au début du verset 35. Ensuite, le langage de la croix, les versets, la fin du verset 35 au verset 43. Et enfin, le visage de la croix, verset 44 à la fin. Il y a un temps pour toutes choses, mes amis, et pour Jésus, le temps qui sied à tout homme d'aller rejoindre ses pères, ses ancêtres, comme l'a dit notre sœur tout à l'heure, arrive enfin. Là, voilà la parenthèse de Jésus qui se referme sur lui. Jésus va être mis à mort, Ce récit de la crucifixion est rapporté dans les autres évangiles. Matthieu 27, Marc 15, Jean 19. La description que fait Luc de la scène, comme l'a lu notre frère, nous incite à regarder, nous invite à lever les yeux pour regarder et réaliser ce qui se passe. Il s'applique dans le décor. La place des brigands, les vêtements déchirés, La foule bigarre. On peut très bien s'imaginer, par exemple, en lisant ce passage, le bruit des clous qui pénètrent la chair. Luc effectue plusieurs zooms au fur et à mesure de son récit. Des zooms qui vont s'arrêter sur certaines personnes. Regardons la croix comme si nous y étions. La loi juive préconisait la lapidation comme condamnation. Avec la domination romaine, nous en sommes à la croix. Voilà la peine capitale. La vedette, le roi à la couronne d'épines, est crucifié. Beaucoup y sont venus pour se divertir, pour contempler, d'autres par curiosité. Mais qui sont donc les témoins de la croix? Le passage nous parle de deux bandits, deux malfrats, deux malfaiteurs, deux criminels. Ils sont de part et d'autre de Jésus. L'évangéliste avant-gardiste Ésaïe avait déjà signalé cela, que le Messie, loin de Dieu, serait compté parmi les malfaiteurs. Les deux criminels réalisent ce qu'avait annoncé l'Écriture. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous fier aux apparences. Les véritables brigands, c'est eux. Les gibiers de potence, c'est eux. Christ est innocent. Ils sont réellement à leur place. Ils vont jouer un rôle important dans la suite du récit. Les soldats. Le psaume 22, le psalmiste précise dans ce psaume un sentiment d'abandon, un sentiment de laisser pour compte de la part de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Il me regarde, il me toise et tire au sort ma tunique. Le partage des vêtements, ce tirage au sort, en fait un psaume messianique, c'est-à-dire ce qui concerne la personne de Jésus-Christ. Même les clous enfoncés dans la chair, il en était déjà mention dans ce psaume. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Pourquoi Luc mentionne-t-il ce jeu des soldats avec les vêtements? Question simple, réponse simple, c'est pour que s'accomplisse la prophétie. Troisième témoin, la foule. En français, on utilise le pronom « on » quand on ne veut pas citer ou quand on ne veut pas désigner. Le texte nous parle de la foule. Les relations avec la foule, les relations de Jésus avec la foule, en tout cas, ne datent pas d'hier. Ça ne date pas non plus de ce jour-là. Des antécédents riches en situation de virement. Les évangiles rapportent que Jésus a enseigné la foule qui le suivait. On a le sermon sur la montagne. Il l'a nourri, l'épisode des cinq pains et deux poissons. Il en a guéri plus d'un. Et pourtant, cette même foule demande à ce que Christ soit crucifié. Ce qu'on peut dire, c'est que parmi la foule qui suivait Jésus, tout le monde ne le portait pas dans son cœur. Ce sont des taureaux à la grande gueule, une horde de chiens ou meute de méchants qui assaillent. Ce n'est pas de moi, c'est le psaume 22. Ce même psaume ajoute « Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise, ceux qui me voient se rient de moi. » Tous ricanent en secouant la tête. Voilà autant d'images significatives de l'attitude de la foule devant la scène de la crucifixion. Alors qu'on soit une autorité, un criminel, une force de l'ordre, difficile de résister, Difficile de rester insensible face au spectacle de la croix. La vraie question est de quelle façon réagit-on ? Mais avant d'y répondre, parlons du personnage principal, Jésus. Ce jour-là, Jésus, c'est la vedette, l'attraction principale. C'est le clou du spectacle. Vous savez, au cirque, les trapézistes, ces voltigeurs de l'extrême, quand ils veulent faire leur tour, les spectateurs ont les yeux rivés vers eux. Ils sont appelés à lever les yeux. La scène de la croix, c'est pareil. La croix nous oblige à lever les yeux et à regarder. L'image de Jésus au milieu des deux brigands. Pourrait-on voir là, jusqu'au bout, l'image du juste au milieu des injustes ? Ce qu'on peut en tout cas aussi souligner là, c'est que cette image véhicule une idée de choix, de prise de position face à l'offre de salut. La déclaration universelle du salut, pour ceux qui s'en souviennent, en Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jésus est venu pour les injustes. Il est venu pour les pécheurs. Qui est donc juste ? Cette image nous montre bien que Jésus, jusqu'au bout, est le seul juste. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. De qui Jésus parle-t-il ici dans sa prière d'introduction ? Ceux qui regardent ? Ceux qui l'ont cloué ? Ou bien plus encore ? Les soldats sont conscients. Si vous prenez un marteau avec un clou pour faire un trou, vous êtes conscient de ce que vous faites. Mais ce n'est pas ce qui intéresse ici notre Seigneur. Ils sont bel et bien conscients de ce qu'ils font, mais avec leurs yeux, ils ne voient absolument rien. Le peuple, pareillement, se rit de la situation. Ils ont eu tellement d'occasions de comprendre, mais avec leurs oreilles, ils entendaient, mais ne comprenaient rien. La prière de Jésus s'annonce et s'adresse ici à tous les témoins de la croix. Mais elle va plus loin. Pour tous ceux-là qui viendront à lui, le pardon leur sera accordé. D'ailleurs, n'est-il pas dit que Jésus intercède pour nous auprès de son Père, notre Père? Un petit rappel, lorsque Jésus était à Capernaum, il a pardonné les péchés d'un paralytique. Voyons la foi de ceux qui le transportaient. Mais ceux qui étaient présents, la foule l'a traité de blasphémateur. Pourquoi ? Parce que Dieu seul a le pouvoir de pardonner les péchés. Oui, Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus est Dieu. Et cette prière montre encore que parce qu'il satisfait aux exigences de Dieu par rapport au péché, il a ce droit de faire cette demande à son Père. D'ailleurs, nous verrons plus bas que Dieu accorde le pardon, mais Jésus l'accorde aussi avec le brigand. Est-il plus facile de pardonner à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait ? Pour celles et ceux qui ont des enfants, qui ont des neveux, des nièces, qu'est-ce qu'ils font des bêtises des fois ? Mais on se dit, il y a un petit peu d'ignorance. On peut laisser passer. Est-ce que c'est facile alors pour autant ? C'est à nous rendre fous des enfants qui ne comprennent pas, ou alors que nous pensons qu'ils ne comprennent pas. Jésus, lui, souffre dans sa chair à cause de nous. Pourtant, il nous sait encore tout jeune et tout ignorant. Il n'est pas encore ressuscité. L'esprit n'est pas encore donné. Normal qu'il y ait encore des zones d'ombre. Dieu pardonne à cause de Jésus-Christ, le bon serviteur. La suite du récit montre bien qu'il est approuvé par Dieu. Combien sommes-nous prêts, lorsque nous sommes victimes d'injustice, combien sommes-nous prêts à pardonner ? Hier, nous avons rencontré à l'évangélisation une dame qui, jusqu'aujourd'hui, n'arrive pas à pardonner à quelqu'un qui lui a fait du mal. Combien sommes-nous prêts à le faire ? Jésus, lui, au comble de la souffrance, accorde son pardon. Pendant que la foule crie « Crucifiez-le !» Jésus semble dire « Père, innocente-les !» Christ est l'exemple même de la doctrine qu'il enseigne. Faites ce que je dis, parce que c'est ce que je fais. Alors, qui que tu sois, sache une chose, c'est à la force de son amour pour toi que Jésus combat ta haine pour lui. Le langage de la croix, notre deuxième élément au pied de la croix. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le messager de la grâce, veut nous faire entendre le langage de la croix. En même temps, ce ne sont pas des discours qui manquent autour de lui. La majorité d'entre eux soumet à Jésus un défi. Alors Jésus, cap ou pas cap, un nouveau bras de fer. Déjà encore, le psaume 22, encore lui, faisait déjà mention de cela. Il se confie en l'Éternel, et bien que maintenant l'Éternel le délivre, puisqu'il trouve son plaisir en lui, qui le libère donc ? Face à ces attaques ciblées, notre Seigneur n'est pas dans une démonstration de force, mais bien d'obéissance. Un élément commun ressort de tout ce que ces personnes disent ou font, c'est le regard. Pour arriver à se moquer, pour arriver à ricaner de quelque chose ou de quelqu'un, il faudrait d'abord le regarder. Les brigands ne sont pas en reste. Chacun y va de sa personne. L'un insulte Jésus, l'autre a un regard tout aussi tranché. Pour les chefs de peuple, lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve dans lui-même, s'il est le Messie, l'élu de Dieu. Voilà, c'est toujours les chefs qui sont devant pour ouvrir le bal. Les délivrances, mais Jésus, tu en as fait d'autres. C'est pas cette petite délivrance qui va te dépasser. Jamais deux délivrances sans trois, pourrait-on dire. Les chefs pensent appuyer où ça fait mal. Le défi qu'ils lancent à Jésus est très clair. Et ça tient en quatre mots. Descend de la croix. Comme le dit l'adage, Jésus répond aux imbéciles par un petit coup de silence. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Cher soldat romain, quelle audace! Quelle toupée! Ils ne sont pas d'ailleurs à leur première confrontation directe avec Jésus. À l'intérieur du palais de Pilate, il disait déjà « Salut, roi des Juifs !» Pourtant, nous savons que la déférence du Romain allait à son empereur César. « Ave César, tous ceux qui vont mourir te saluent !» Référence Astérix, le gladiateur. La pancarte sur la croix de Jésus aurait-elle éveillé des souvenirs chez ses soldats ? Tenez une pancarte sur une autoroute. Les panneaux. Ces panneaux indicateurs sont très utiles. Mais les panneaux qui ne nous concernent pas, on a tendance à ne pas les regarder. On se sentira davantage plus concerné par les panneaux qui sont sur notre itinéraire. Les Romains n'en ont rien à faire de Jésus. De nos jours, la loi, c'est chacun fait sa vie. L'Église, qui est le panneau indicateur de Christ, est comme laissée à l'abandon parce qu'on ne veut pas blesser, parce qu'on ne veut pas être pointé du doigt. L'écriteau de Christ portait un titulus, son motif de condamnation, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Jésus est condamné parce qu'il est roi. Cherchez l'erreur. Nous l'avons lu, l'écriteau était en trois langues. Hébreu, latin, grec. Sans le vouloir, Pilate a participé à la reconnaissance de la royauté universelle de Christ, puisqu'il n'a pas daigné enlever cette pancarte, malgré les insistances du peuple. Comment un roi digne de ce nom peut mourir de cette façon? Comment peut-il être le roi des Juifs si la foule qui est faite de Juifs ne reconnaît pas sa légitimité? Jésus serait-il un roi sans sujet? Le dernier verset que notre frère a lu nous montre bien que non, mais nous le verrons plus tard. Encore une fois, un défi est lancé. Réponse de Jésus, mutisme complet. Nous arrivons aux deux brigands. L'un des deux ouvre le bal et semble connaître la loi. Est-ce vraiment cela? Ce qu'on peut affirmer en tout cas, c'est que sa réaction suit la réaction de la foule. La foule s'est exprimée, il a entendu Messie, il a entendu délivrance. Il peut se permettre aussi donc de poser sa question. Combien aujourd'hui prétendent détenir la vérité? Combien d'églises locales se voilent la face avec cette affirmation? Si tu es le Sauveur, sauve-moi. Sauve-nous. La réponse de Christ, pas de changement. Silence de mort. Les trois condamnés ont la même peine, le même châtiment, mais pas pour les mêmes raisons. Un débat théologique se tient entre les deux brigands. Si pour l'un c'est juste, pour l'autre, la condamnation, la crucifixion de Christ est injuste. Dans la vie d'Église, on en voit qui en viennent parfois aux mains, parce qu'ils sont sûrs que leur erreur et la vérité. Et voilà que l'épée de l'esprit, qui est la vérité, devient le glaive contre le frère ou la sœur dans le Seigneur. Et si vous le remarquez bien, Jésus est toujours au centre de la discussion. C'est mon erreur qui est la vérité. Le brigand qui intervient en faveur de Christ, si l'on peut s'exprimer ainsi, a un discours fleuve. Et au bout de son discours, il demande grâce à Jésus. Voilà ce que je disais tout à l'heure. La grâce est demandée, le pardon est accordé. À celui qui le demande, oui, Dieu est fidèle pour accorder le pardon. Jésus n'a-t-il pas dit dans l'évangile de Jean, « Mes brebis reconnaissent ma voix et me suivent ?» La question surprenante qu'on peut se poser, c'est que ce brigand a des paroles d'espérance. On l'a chanté tout à l'heure, c'est vrai que c'était le mot « espoir », mais je pense que c'était espérance qui était dans le cœur de nos frères et sœurs qui nous conduisaient. L'espérance, il n'y a rien de mieux. Le brigand sur la croix a les paroles d'espérance. J'espère. Ne m'oublie pas quand tu viendras régner. Il a déjà anticipé sur la mort, la résurrection, l'ascension, la cession et le retour de Christ, alors que la foule est là, avec des yeux et ne voit absolument rien. Ce brigand croit au retour du Seigneur Jésus. Voyez-vous ça? Et si on remarque bien dans le récit de Luc, c'est seulement quand il parle, seulement quand ce brigand a parlé, que Jésus a répliqué. Jésus est vivant pour l'éternité. Voilà le scoop du siècle. Quel paparazzi ne donnerait pas cher pour avoir ce scoop? Combien est-ce qu'on paye aujourd'hui pour avoir des informations qui n'édifient pas, qui ne construisent pas? Combien sont prêts à payer? Le chrétien a un scoop. Jésus est vivant et il revient. Voilà un scoop. C'est un scoop d'éternité, c'est du solide. Info en béton. Contrairement aux paparazzi qui veulent garder l'information pour eux, le chrétien, quand il a ce scoop, se doit de partager l'évangile. C'est ce que Luc a fait. C'est ce travail d'historien qu'il a fait. Il a fait ses recherches, il les a mises par écrit pour nous. Pour revenir au brigand, le brigand confesse Jésus et il affirme même sa divinité, alors que même Jésus n'est pas encore mort. Jésus, qui était muet depuis un certain temps, prend la parole. Vraiment, je te l'assure, dès aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. À ce brigand qui désigne être sauvé, Jésus montre que la croix est un acte de salut pour l'homme. Le langage de la croix résonne très fort ici. Si Jésus avait refusé la croix, ça aurait fait de lui un menteur. Il avait promis à ses disciples, lorsqu'il y a eu l'apparition à la montagne, gardez cela secret jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Si Jésus n'était pas mort, ni ressuscité, ça aurait fait de lui un menteur. Mais nous croyons qu'il est ressuscité. Ce roi crucifié, abaissé, méprisé, il n'a pas refusé le supplice. Il a fait plus, il a annulé l'acte qui nous condamnait à la croix. Pendu à cette croix, Jésus prend sur lui le châtiment qui nous donne la paix. Nous sommes en paix, tous ceux qui sont coupables et qui viennent à Jésus. Dans le langage de la croix, Paul dira, la proclamation de l'évangile, c'est le Christ crucifié. Fini les discours, fini les débats théologiques, désormais, Jésus est seul. Seul face à la mort. Ou serait-ce le contraire? Est-ce que ce n'est pas la mort qui se dresse devant Jésus? Elle se dresse fièrement. Jésus, ton heure a sonné. Détrompe-toi. Jésus a donné 3 jours pour régler le problème de la mort, pour régler le problème du péché et ressusciter en maître et seigneur. Jésus est seul face à la fin de sa mission. Luc a dégrossi progressivement. Il y avait les brigands, il y avait la foule, il y avait les chefs de peuple. Progressivement, il dégrossit, il enlève le discours et place à la vedette, puisque c'est de ça qu'il s'agit. C'est Christ qui meurt pour nous. Il est tellement bien des choses difficiles que nous vivons et que nous devons vivre tout seuls dans notre vie, en particulier la mort. Personne n'est jamais revenu de la mort pour nous expliquer comment ça se passe. Une fois qu'on est parti, on ne revient plus. Mais un seul a réussi, Jésus-Christ. Cette situation semble faire écho à Job. Job, quand il était souffrant, s'est interrogé sur Dieu. Jésus, avec les pires tourments de l'époque, les pires tortures humaines, il s'est abandonné et s'est confié à Dieu. Il a commencé la scène de la passion. Il a commencé la scène de la crucifixion. Et c'est encore lui qui ferme ce moment. Les chefs, la foule, les brigands, tout le monde a fait silence. Jésus est seul. Luc voudrait aussi que nous puissions contempler cette image du Christ crucifié. Le pays est plongé dans l'obscurité. Le rideau du temple se déchire. Obscurité totale. S'agit-il d'une éclipse ? Je me suis renseigné sur notre chère Wikipédia et en théorie, la plus longue éclipse solaire devra durer 7 minutes 40 secondes. Le pays a été plongé dans l'obscurité 3 heures durant. Aucun travail scientifique ne peut expliquer cela. Ce serait refuser aussi que Dieu est capable de faire de telles choses. Il ne s'agit pas d'une mince affaire. Est-ce que le ciel s'est obscurci seulement à Golgotha, ou seulement à Jérusalem, ou dans tout le pays? Est-ce que Luc fait une exagération ici en disant que c'est tout le pays qui est plongé dans l'obscurité? Rappelons-nous, Luc a fait un travail d'historien. Il a fait des recherches. Il a dû se renseigner. Cet instant a dû être vécu sous d'autres endroits. Et d'ailleurs, comme je le disais, notre Seigneur n'est pas limité. C'est tout le pays qui est plongé dans l'obscurité. Il était midi, et puis d'un coup, obscurité totale. 3 heures d'obscurité, de longue et longue agonie. Arrêt sur image. Pendant 3 heures. Le rideau se déchire. Voilà un symbole de la religion juive qui est atteint. La lettre aux Hébreux dit que désormais, on a un libre accès. Est-ce que c'est cette image qui est perçue ici? On a désormais un libre accès auprès du Père. L'histoire des hommes a connu plusieurs symboles, mes amis. Symbole d'une page qui se tourne. La chute du mur de Berlin en 1989, 28 ans après son commencement. En juin dernier, le Brexit, 43 ans après son adhésion. Celui qui vient au pied de la croix a toujours un avant la croix et un après la croix. Nul ne peut venir à la croix et retourner comme il était. Après avoir donné la météo du jour, Luc dit que le Seigneur a expiré. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Le Maître est enfin apaisé, délivré de ses souffrances. En même temps, il nous délivre aussi. Est-ce que la véritable lumière s'est éteinte? Ce qu'on peut dire en tout cas, même s'il n'y a pas eu d'éclipse, c'est que le véritable soleil s'en est allé. Leon Morris parle de la crucifixion comme le sacrifice suprême pour le salut des pécheurs. Les témoins de la croix ont voulu jouer les bonnes conseillères. Jésus fait ceci, Jésus fait cela. Cap ou pas cap? La pression était de partout, même ceux qui étaient à côté de lui. Mais il était motivé davantage par la gloire de Dieu. Tout ce qui devait être fait a été fait. Jésus, par cette mort, nous donne le vrai visage de la croix. La croix, c'est l'apogée de la passion, c'est le cœur de la mission et la pleine mesure de la soumission de Jésus-Christ. Même à l'article de la mort, son désir a été que son Père ait compassion et pardonne. Notre Seigneur, aux portes de la mort, nous enseigne sur la prière et l'abandon complet à Dieu. Non seulement Luc nous donne le visage de la croix, mais cette croix nous dévisage. Qui peut s'approcher de la croix et repartir comme il est venu? Il y a eu un silence complet. Et regardez ce qui s'est passé avec la foule. Ils sont retournés en se frappant la poitrine. Image de la tristesse. Et il n'y a pas eu plus. Quel est le terrain qui a été touché, transformé? Luc nous étonne encore, c'est un soldat romain. Les Juifs qui étaient là présents, la seule chose qu'ils ont eu à faire, c'est de s'en retourner en se frappant la poitrine. Ce n'est pas suffisant. Quand on se cogne le pied, on crie « aïe », on regarde, si après on ne trouve pas de quoi se soigner, ça ne peut que s'infecter davantage. Un soldat romain, un païen, c'est lui qui rend gloire à Dieu. N'est-il pas tout à l'heure dans le rang des moqueurs? Le voilà qui dit maintenant aucun doute. Oui, mes amis, il ne fait aucun doute que cette expression est en général indicateur de vérité par rapport à ce qui va suivre. Il a dit « Jésus est un homme juste ». Cet homme était le Fils de Dieu. Verset 49, les femmes sont mentionnées. Pourquoi? À question simple, Luc donne une réponse simple. Ces versets, pour ma part, introduisent la résurrection. Parce que après, ces femmes vont jouer un rôle important de la résurrection de Christ. Le supplice de la croix est un triste spectacle, pour conclure, mais un spectacle nécessaire tout de même. Jésus a souligné à plusieurs reprises, l'importance de sa mort, de ce fossé vertigineux de notre rébellion contre Dieu. Il l'a comblé par un amour renversant, un amour débordant, un amour qui se donne. Jésus se donne pour nous à la croix. Luc nous fait faire un bond, retour vers le passé, pour regarder le présent en face. Dieu avait promis par son prophète Ésaïe qu'après avoir souffert, le serviteur de l'Éternel verrait la lumière. Christ va ressusciter, c'est le retour à la vie. This is not the end. I will be back. On se souvient de cette fameuse réplique d'Arnold Schwarzenegger dans Terminator. I will be back. Je reviendrai. Jésus revient. L'Apocalypse le dit. Bien plus encore, Jésus ressuscité le dit lui-même. Maranatha, je reviens bientôt. Il a posé pour nous les bases. Il a posé le fondement. Il nous a donné son esprit qui nous soutient et il revient bientôt. Comme une chenille qui s'enferme dans sa chrysalide, Jésus accepte de mourir. Mais c'est pour renaître, comme ce joli papillon que deviendra notre chenille et bien plus encore, le Christ, le roi pour l'éternité. Condamné à mort, oui, mais ressuscité des morts aussi. Du berceau à Bethléem, au poteau à Jérusalem, de l'humilité à l'humiliation. Le crépuscule de sa vie annonçait l'aube de la vie. Le poids de nos péchés reposait sur les épaules d'un innocent, et c'est lui qui est porté au rang des coupables. À la croix, le roi des rois a fait son choix, pour toi, pour moi. Et ce sang qui a coulé, c'est son amour qui déborde. Oui, celui qui l'a trahi, il ne l'a pas rejeté. Celui qui l'a renié, il l'a restauré. Ceux qui l'ont rejeté, il les a pardonnés. Ceux qui l'ont haï, il les a aimés. La croix de Jésus-Christ est le symbole de la victoire de Christ sur le péché, sur la mort, sur le diable. Qui d'autre aurait pu satisfaire aux exigences de Dieu face au péché? La croix marque la réconciliation de l'homme avec Dieu, de l'homme avec lui-même et de l'homme avec son prochain. La croix révèle notre identité. Au pied de la croix, notre identité de pécheur tombe sous le sens. Je pense que nous connaissons tous Hulk, ce héros de Marvel. Un géant vert, comme ça. Une brute avec une force colossale, hors du commun. Pourtant, dans la vie de tous les jours, c'est un gringalet. Un scientifique ordinaire, qui ne ferait même pas de mal à une mouche, mais qui chaque jour lutte pour empêcher ce Hulk de sortir. La croix révèle le péché. La croix révèle en nous ce Hulk contre lequel nous devons lutter tous les jours. Ce sont nos actes contre Dieu et nos plaisirs qui nous tiennent éloignés de lui. Ce sont nos actes qui nous sont dévoilés au pied de la croix. La croix est ce lieu, c'est ce lieu-là où nous pouvons nous décharger. Nous décharger de ce fardeau qui nous pèse. La croix confirme les Écritures, mes amis. Au pied de la croix, l'Écriture s'éclaire et prend vie pour ceux qui pensent que la Bible, c'est une histoire ancienne. Jésus-Christ est le roi des Juifs. Tous ceux-là qui croient en son œuvre et en son œuvre salutaire. Paul dira que le Juif, c'est tout chrétien dont le cœur est circoncis par le sceau divin qu'est l'Esprit de Christ. La croix fonde le message de l'Évangile, car le sacrifice de Christ, c'est l'Évangile. Au pied de la croix se trouve le salut en Jésus-Christ. Il est bel et bien venu non pour sauver sa vie, mais pour sauver la nôtre. La croix est un fait historique qui reste actuel. C'est le symbole du chrétien. La croix est un fait historique qui reste actuel. C'est le symbole du chrétien. Et même si cela a été utilisé à mauvais escient dans les croisades, la croix n'est pas un symbole de paix, mais un symbole de guerre, mais un symbole de paix. Parce que le Fils a apaisé la colère de son Père. Christ lui-même a voulu que nous puissions nous souvenir de cet acte, un acte d'amour et de pardon, jusqu'à son retour. Lorsque nous prenons la scène, le repas du Seigneur. Sans la croix, point d'évangile. Sans la croix, crise de foi. La croix fait partie de l'ADN du chrétien. Celui qui se dit témoin de la croix aujourd'hui doit avoir le langage de la croix et doit montrer le visage de la croix. Un acte d'amour et de pardon qui montre l'obéissance. Alors, toi qui m'écoutes, j'ai une bonne nouvelle. Jésus n'a pas changé. Il est juste ressuscité. Il est le Seigneur de gloire. Sache donc, penses-tu l'avoir trahi une fois? Viens à lui. Il ne te rejette pas. L'as-tu renié? Viens, reviens, il te restaurera. Quand bien même il t'est arrivé de le rejeter au pied de la croix, sois sans crainte. Il est un Dieu qui pardonne. Et si tu n'as que faire de Jésus, lève les yeux et regarde à la croix et vois son tendre amour pour toi. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voici au pied de la croix et nous repensons à ce sacrifice que tu as accompli sur la croix. Acte merveilleux, acte de souffrance pour notre délivrance. Oui, tu nous donnes de venir tel que nous sommes auprès de toi. Et à celui qui demande grâce, tu lui accordes le pardon. Je te prie pour celles et ceux qui sont présents ici, qui ont eu à te renier un moment, qui ont eu à penser que oui, tu n'agis plus aujourd'hui. Père, que ces personnes viennent à toi, ouvre leur cœur, parce que tu es toujours là, prêt à accueillir et à pardonner. Tu as prouvé ton amour jusqu'à la croix. Face à la pression extérieure, tu n'as pas failli à ta mission. Combien sommes-nous qui n'allons pas jusqu'au bout? Tu es notre espérance, Christ. Tu es ressuscité. Et au pied de la croix, nous voulons déposer nos fardeaux, qu'il y ait un avant la croix et un après la croix. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Amen.